Bonjour Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence. Bonjour à tous les auditeurs.
Aujourd'hui, nous vous proposons d'intervenir sur la dernière assemblée plénière des évêques à Lourdes qui s'est tenue du 19 au 22 mars dernier. Il y a eu différents sujets qui ont été abordés et notamment le projet de loi sur la fin de vie et le vote d'une déclaration des évêques de France intitulée « Ne dévoyons pas la fraternité ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ?
Oui, alors l'idée est toute simple, c'est de dire que la fraternité ne consiste jamais à donner la mort. Fraternité, ça consiste à aider, à soutenir, à encourager, à être là, à accompagner les personnes en fin de vie, mais jamais à ne poser un geste qui va intentionnellement donner la mort. Et c'est vraiment ce sur quoi nous appuyons sur notre réflexion, alors que précisément le projet de loi qui a été déjà présenté au gouvernement nous laisse vraiment sur notre faim. Il comporte beaucoup d'ambiguïté. Alors on ne parle pas d'euthanasie, on ne parle plus de suicide assisté, on veut supprimer les mots qui font peur, on parle d'aide à mourir, mais au fond la réalité est exactement la même, c'est-à-dire qu'on va poser un geste qui va intentionnellement donner la mort. Je crois que là, on opère une vraie bascule. Pour nous, la vie est sacrée. La dignité de la personne humaine, elle ne se mesure pas à son état de santé, mais elle est là, présente jusqu'au bout. Et donc, on s'inquiète beaucoup de cette loi qui pourrait être passée une première fois au Parlement avant l'été, et puis ensuite aller au Sénat pour être votée en fin d'année. Les catholiques ne sont pas les seuls à penser cela. Beaucoup de soignants, beaucoup de médecins, beaucoup de tout ce personnel qui connaît vraiment... L'accompagnement des personnes en fin de vie savent combien nous sommes tous là pour accompagner jusqu'à la fin.
Par rapport à ce texte de la déclaration des évêques, il y a une phrase qui est très belle. Nous appelons tous les chrétiens et tous les hommes et femmes de bonne volonté à être d'authentiques serviteurs de la vie de leurs frères et sœurs. Donc ça, c'est un message qui est fort de la part des évêques. C'est quelque part aussi nous donner la responsabilité aussi chacun à notre niveau, là où on est, d'accompagner, d'aider et de préserver la vie à tous les niveaux.
Oui, avec l'aide des soins palliatifs, ce qui nous semblerait juste, c'est de développer les soins palliatifs, de mettre vraiment des moyens. On sait qu'il y a encore, je crois, 26 départements où il n'y a pas de service de soins palliatifs qui soit vraiment développé. C'est ça la réponse. La réponse est une réponse avec des moyens humains, avec des moyens financiers, médicaux. Avec des moyens en lit, vous voyez, c'est-à-dire des services
concret,
qui existent.
Ouais.
De sorte qu'on a développé ces soins palliatifs qui sont vraiment pas du tout un acharnement thérapeutique jusqu'à la fin, mais vraiment un accompagnement et de la personne en fin de vie et de son entourage, avec une collaboration évidemment du personnel soignant, des décisions qui sont prises de manière collégiale. Je crois que là, il y a une expérience qu'on ne peut pas balayer et qu'on ne peut pas mettre sur le même pied qu'une aide à mourir où on va, si vous voulez, injecter un produit qui va donner la mort. Là, ce qui nous inquiète, c'est l'ambiguïté des propos. C'est le fait que les choses ne sont pas nommées. Et puis, un projet de loi qui nous semble tellement ouvert qu'on ne pourra pas, au fond, limiter les dérives possibles. On voit bien que dans les pays comme au Canada, en Belgique, à partir du moment où on entr'ouvre la porte, c'est-à-dire qu'on donne le droit de donner la mort, eh bien, des personnes... par exemple, je ne sais pas, autistes ou bien des personnes qui se sentent mal dans leur vie demanderont aussi ce droit-là en disant bah, il n'y a pas de raison que ça soit réservé que à des personnes en fin de vie. Et là, les pays qui ont ouvert la porte n'arrivent pas à contenir parce que évidemment, il y a d'autres questions qui se font jour après, des questions d'égalité devant la loi, d'équité. On a l'impression qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire.
Oui,
on veut résoudre le problème des personnes qui souffrent en fin de vie. Et la souffrance, personne n'a envie de souffrir. Mais on sait très bien comment aussi de grands efforts ont été faits pour la thérapie de la douleur, c'est-à-dire soulager la souffrance des personnes en fin de vie au maximum. Mais donner la mort n'est jamais une réponse, jamais une réponse à la souffrance. Voilà comment est-ce que nous sommes toujours présents. Vous voyez, cette question de savoir comment est-ce que, au fond, une fois que nous avons ouvert la porte... dans bien d'autres domaines, une fois que nous nous autorisons à donner la mort de manière volontaire, où va-t-on ? Et ça, je crois qu'il faut un regard de sagesse. Et moi, j'aimerais que nos parlementaires, nos députés, nos sénateurs prennent bien conscience de l'enjeu qu'il y a à voter une telle loi.
En assemblée plénière avec les évêques de France, comment vous vous mettez d'accord ? Est-ce que vous avez justement des échanges par rapport à ces questions-là ?
Oui, évidemment, on partage nos idées, nos initiatives. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les EHPAD qui sont dans une tutelle catholique, c'est-à-dire qui ont soit sont des religieuses, soit c'est un diocèse, soit c'est une association d'origine catholique. Voilà, que vont devenir nos EHPAD ? Est-ce qu'on sera obligé de donner la mort dans ces EHPAD ? Ou est-ce qu'on aura le droit de sanctuariser nos EHPAD catholiques pour que on se dise, là, mon parent, enfin, mon père, ma mère, mon grand-père sera vraiment en sécurité et, et on va pas lui proposer, parce qu'on voit bien, vous voyez, les dérives de cette loi, c'est qu'à un moment, on passe d'une option, quelque chose d'optionnel, à quelque chose qui est proposé, qui est recommandé. On se rend compte que finalement, on n'a pas tellement le choix. Et ça, vous voyez, le problème, c'est ça, c'est d'ouvrir la porte. On l'entrouve, et puis ensuite, on l'ouvre largement. Et puis ensuite, ça devient, comme une proposition, parce qu'il faut libérer un lit, parce que la personne se sent inutile, parce que la personne sent qu'elle est un poids pour sa famille ou bien pour la société. Et moi, je voudrais répéter, personne n'est un poids. Personne ne peut considérer qu'il est un poids pour les autres. Nous aimons nos parents, nos amis, tous ceux que nous connaissons. Nous voulons rester avec elles jusqu'au bout, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est ça la fraternité.
Alors un autre sujet important que vous avez évoqué lors de cette assemblée plénière, c'est donc la lutte contre les abus et les violences sexuelles, et notamment le rapport INIR.
Oui, alors l'INIR, c'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les personnes qui ont subi des abus dans l'Église, soit de la part de clercs, soit de la part de laïcs. Cette instance, elle a été créée pour écouter, proposer à ces personnes un chemin de restauration, si on peut dire, reconnaissance et réparation. Ça veut dire, comment est-ce que nous pouvons vous aider à vous relever. Alors, il y a une partie financière, mais pas seulement. Il y a de l'écoute, il y a aussi des célébrations, il y a aussi la pose de plaques commémoratives, il y a un aspect mémoriel, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une instance qui est indépendante, mais qui, quand même, produit un rapport. Là, on a eu la lecture du rapport du 31 décembre 2023. Alors, et c'est intéressant, tout le monde peut aller consulter, il suffit de taper INIRR, Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, INIR, et puis là on trouve les chiffres. Vous voyez, au 1er mars 2024, il y a 1396 personnes qui se sont adressées à l'INIR. Il y a 855 personnes qui ont été accompagnées par un référent, donc il y a vraiment un accompagnement, oui, plusieurs rendez-vous, qui nous disait l'âge moyen des personnes victimes est de 61 ans. Il y a eu 502 décisions rendues par le collège. Moi, je trouve que c'est intéressant de le dire aux personnes qui nous écoutent, d'aller voir ce rapport, d'aller voir la manière dont ils travaillent, avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de compétences, et nous leur faisons confiance, et elles nous aident vraiment à aider les personnes qui ont été abusées à se relever, tant qu'on peut le faire, autant qu'on puisse le faire, oui.
Alors, un autre sujet, la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, publiée au journal officiel le 9 mars, la loi donc de liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, ça, ça ne faisait plus partie des points de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. On passe à un autre sujet. La France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'IVG. En quoi c'est justement un acte, une décision qui a des conséquences graves, sérieuses pour l'Église et pour le monde et pour les femmes et pour la vie ?
Nous pensons que l'avortement est un acte grave. Ce petit embryon, il a les droits d'une personne humaine. Donc nous reconnaissons à l'embryon les droits de la personne humaine. Et donc on pense que, vous voyez, si jamais rien ne se passe, si nous laissons, la nature faire son travail, ce petit embryon, il va devenir une personne comme vous et moi. Au fond, on a chacun été un petit embryon dans le sein de sa mère. Voilà, l'avortement n'est pas une bonne solution, parce qu'au fond, c'est mettre fin à la vie de quelqu'un qui, sans intervention humaine, deviendrait une personne humaine. C'est très difficile de parler avec les personnes qui sont favorables à l'avortement, parce qu'elles voient surtout la détresse de la femme, qui est indéniable. Je pense que l'honneur de notre société s'arrêtait de se dire, nous nous occupons de ces bébés, de ces enfants, nous trouvons une autre solution. constitution que de supprimer leur existence. On ne comprend pas très bien pourquoi ça a été constitutionnalisé, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'en France, il y avait un danger de revenir sur la loi Veil. On a l'impression que ce qui se passe ailleurs dicte notre conduite, notre législation. Ce qui est dommage, parce que ça remet en cause aussi notre autonomie, notre liberté de penser par les États-Unis, ce qui s'est passé aussi en Hongrie. Et je ne crois pas que ça soit à l'honneur de la France d'avoir constitutionnalisé un texte, d'autant plus qu'on a l'impression que, du coup, on n'a plus le droit de penser le contraire.
C'est ça.
On n'a pas le droit de s'opposer à l'avortement. Alors que je pense que nos arguments, ils sont tout à fait recevables, en particulier dans une démocratie. C'est un petit peu comme si on disait à ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'avortement, taisez-vous, c'est dans la Constitution. Vous êtes de mauvais citoyens, vous êtes de mauvais républicains. Je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, c'est pas à l'honneur de notre pays d'avoir voté cette loi. Je crois vraiment qu'on devrait se dire, dès qu'une femme est enceinte, ça ne concerne pas simplement sa vie privée, ça concerne l'ensemble de la société. Nous sommes tous concernés par cette vie qui est en train d'apparaître et qui est importante pour tous. Pas seulement pour une famille, pas seulement pour une femme, pas seulement pour un couple. On fait comme si c'était un acte purement privé qui ne nous touchait pas. Or, on sait très bien, dès qu'un enfant apparaît, dès qu'un enfant naît, on est tous concernés. Il y a une dimension sociale de l'enfant à naître. Et malheureusement, on le privatise complètement. Il s'agit de trouver ensemble une solution alternative, justement, à l'avortement.
Alors, pour terminer cette émission, vous revenez donc de Lourdes, avec environ 440 personnes du diocèse qui participent à ce pèlerinage à Lourdes, dans l'hospitalité, les jeunes du service de la pastorale des jeunes, nous avons des malades, nous avons des pèlerins. Pouvez-vous nous donner un petit retour sur l'ambiance ?
C'est une grâce de vivre un pèlerinage à Lourdes pendant le temps pascal. Les sujets traités par l'Assemblée des évêques ont été des sujets graves, lourds. Voilà, nous avons fêté la résurrection. C'est vraiment notre espérance, le Christ vainqueur de la mort et des ténèbres. Et vivre le pèlerinage à Lourdes dans cette ambiance, en chantant des Alléluia, en louant le Seigneur, je crois que ce qui est très beau, c'est justement que nous accompagnons des personnes, soit âgées, soit malades, et puis qu'il y a cette fraternité dont nous venons de parler autour d'elles. Lourdes, c'est vraiment... Moi, je dis à Lourdes, c'est le monde à l'endroit. C'est-à-dire que les personnes en difficulté, les personnes en précarité, les personnes en fragilité, elles sont en premier rang. Et puis, nous sommes leurs serviteurs. Et il y a 70 jeunes de notre diocèse qui sont là et qui apprennent à servir et à qui ça donne un incroyable bonheur, une vraie joie. Ils ont pas mis longtemps à se plonger là-dedans en se disant mais au fond c'est très beau d'être avec des personnes âgées, des personnes malades, de les accompagner dans leur chemin de foi. Il y a une joie qui est pas une joie qui provient de la technique, mais une joie de la rencontre. Pour moi, c'est vraiment une grâce de résurrection. Et donc, face à la fragilité, voilà ce que nous proposons. Un accompagnement, une tendresse. À Lourdes, c'était les personnes malades qui m'ont évangélisé, qui m'ont prêché l'évangile. Par leur confiance, par leur simplicité, par la manière de se laisser conduire. Voilà ce que nous avons tant besoin de recevoir. Et c'est ce que ces 70 jeunes reçoivent en ce moment à Lourdes. Et donc, pour moi, c'est vraiment un motif de joie.
Merci, Monseigneur Nicolas.
Avec plaisir. Bonne journée et beau temps pascal à tous nos auditeurs et auditrices.